Deutsche Welle, Économie et développement.
En Allemagne de l'Ouest, Sandmann, le petit marchand de sable au chapeau pointu, a aidé des milliers d'enfants assis devant leur télé à s'endormir paisiblement. Mais dans la réalité, il existe des marchands de sable beaucoup moins sympathiques. Un boom immobilier, une forte demande de logements et de bureaux et des mafias du sable qui exploitent à outrance cette ressource naturelle nécessaire à la fabrication du béton. Inde, Jamaïque, Maroc, de nombreux pays sont touchés et voient leur environnement se dégrader. Au Nigeria, c'est la lagune de Lagos qui aiguise les appétits mercantiles. On s'y rendra dans la première partie de ce magazine Économie et Développement. Et puis on restera dans la première économie du continent où les problèmes d'électricité sont encore nombreux. C'est Claire-Marie Costman au micro, bienvenue à toutes et à tous. Du sable, il y en a des quantités dans les déserts, sauf que sa composition fait qu'il ne peut pas être utilisé dans la fabrication du béton. C'est tout le contraire pour le sable qui se trouve sur les plages et le long des cours d'eau, même s'il n'est pas de la meilleure qualité, à l'inverse du sable de carrière propre à la construction. À Lagos, au Nigeria, pour ériger des maisons et des immeubles, les sables de la lagune et de l'océan sont très convoités. Les explications de notre correspondant Ishiaka Adegboye.
Edmond Makanjola est activiste et il lutte contre la dégradation de l'environnement. En dépit des menaces proférées à son encontre par la mafia nigériane en charge de la collecte du sable dans la lagune de Lagos, pour l'activiste, le dragage du sable dans la lagune Etiosa peut provoquer une érosion dont les baies de Lagos en souffrent déjà énormément.
En creusant dans la lagune, vous provoquez une érosion. Vous dérangez tout l'écosystème. Quand tout être humain intervient et dérange la nature, il y a une réaction.
Sylvain Mambé est originaire de la Côte d'Ivoire. Faute de moyens, il est devenu plongeur traditionnel à la recherche du sable dans la lagune de Lagos pour subvenir aux besoins de sa famille, même s'il rencontre des difficultés sur le terrain.
J'ai de la famille, il faut nourrir la famille. C'est pourquoi, et quand on plonge jusqu'à l'intérieur pour aller récupérer du sable, ça brille les yeux. Et j'ai la famille au Nigeria, et c'est pourquoi.
Et depuis combien d'années vous faites ce métier?
Depuis 10 ans. Et... 10 ans, c'est pas facile, on est traqué par la police, tout ça, donc c'est dur.
La construction des maisons est en plein essor dans la mégalopole de Lagos. Et ce sont les sables de lagune et de la mer qui sont fournis par les revendeurs aux acquéreurs. Pourtant, selon l'ingénieur Moussa Danladi, le sable provenant des plages représente un danger pour la construction des bâtiments.
Your beach sand contains salt. The sea water is...
Le sable de mer contient du sel. L'eau est aussi salée et quand vous l'utilisez pour les travaux, particulièrement pour la consolidation, vous mélangez au reste des matériaux. Il peut se produire une réaction chimique qui va affaiblir votre structure et automatiquement les capacités de votre structure à tenir debout pour de longues années va être réduite et cela représente un danger.
Au Nigeria, la législation interdit formellement l'exploitation du sable marin pour des fins de construction de bâtiments. Cependant, la lourdeur administrative empêche sa mise en application. L'exploitation du sable sur le littoral à Lagos n'occupe pas une place prépondérante au cœur des journaux nigérians. Face à cette situation, Christopher Uche, opérateur économique, en appelle à un partenariat gouvernement fédéral et secteur privé pour véritablement éradiquer ce phénomène de collecte de sable à Lagos.
Le gouvernement fédéral a beaucoup à faire, partout dans le monde même. Le secteur privé est toujours appelé à la rescousse pour résoudre beaucoup de problèmes. Quelqu'un doit montrer le bon exemple dans la zone de Lagos. Nous devons statuer sur les problèmes et trouver des solutions.
En revanche, Raliette Bakary dit ne rien trouver d'illégal dans l'exploitation du sable de la lagune. Ce même sable sert à fabriquer les briques qu'elle vend ensuite. Elle est favorable à un accord entre le gouvernement fédéral et les revendeurs de sable pour la bonne marche de ses affaires.
We can't really say that. What they are doing is illegal or not.
On ne peut pas vraiment dire que la pratique est illégale ou pas. Il faut que le gouvernement et les revendeurs règlent leurs différends pour que nous puissions avoir notre part des affaires.
Razak Sanya est propriétaire d'un chantier de construction à Bayekou, une banlieue de la mégalopole de Lagos. Le prix d'un camion de sable marin pour ses travaux de construction lui revient très cher.
À 45 000
naira, c'est l'équivalent de plus de $200 américains. C'est très cher. C'est même au-delà des salaires mensuels des Nigérians. Et c'est juste pour un camion chargé de sable. Plus de $200, c'est vraiment exorbitant. D'un autre côté, vous pouvez considérer que le sable est un don naturel et gratuit, sauf qu'il nécessite beaucoup de travaux manuels, du transport. Cela explique sa cherté. Voilà pourquoi seuls les riches sont en mesure de faire construire des maisons.
Malgré l'interdiction de l'exploitation du sable marin dans la lagune et de la mer à Lagos par les autorités nigérianes, les collecteurs continuent d'extraire le sable et selon eux, l'exploitation du sable demeure encore une bonne façon de se faire des sous. Ishaka Deboye à Lagos, Plateau Chevel.
Et n'oubliez pas, chaque semaine, vous pouvez retrouver le reportage axé sur l'économie et le développement en avant-première dans l'Afrique qui bouge. C'est dans Info Matin, le mardi, sur la Deutsche Welle. Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Économie et Développement, un numéro entièrement consacré au Nigeria. Comme d'autres pays africains, la première puissance économique du continent n'échappe pas aux problèmes d'électricité. Elle n'arrive pas à produire suffisamment de courant pour ses près de 180 millions d'habitants. À la fin des années 80, la production d'électricité atteignait 2300 mégawatts contre 3000 en 2014, encore insuffisant pour répondre aux besoins de la population. Mais l'administration nigériane a ensuite annoncé que l'alimentation électrique avait atteint 5000 mégawatts avant l'arrivée de Muhammadu Buhari à la tête du pays. Le président a fait de l'accès à l'électricité une de ses priorités et la situation semble s'améliorer à Lagos, comme en témoigne Zachary Yao, qui tient une petite boutique dans la capitale économique et financière du pays.
Maintenant, nous avons de l'électricité 24 heures sur 24, sans aucune coupure. Avant, nous devions éteindre les congélateurs pour réduire les coûts du générateur.
Il peut maintenant proposer de l'eau fraîche et des produits congelés à ses clients, mais tous n'ont pas cette chance. D'autres petits commerçants continuent d'engloutir des sommes folles dans l'utilisation des générateurs pour pallier les coupures de courant. Ils peuvent dépenser jusqu'à 5000 naira par mois, soit 22 euros. Une grosse somme quand le salaire moyen nigérian est environ de 90 euros. En mai dernier, un journal titrait encore « La crise énergétique s'aggrave, seules 5 des 23 centrales électriques sont en marche ». En cause, selon la compagnie de transport d'électricité nigériane, le manque de fourniture de gaz pour les centrales thermiques et des problèmes de gestion du stock de l'eau dans l'une des centrales hydroélectriques. Bachir Kourfi est maître de conférence en relations économiques internationales à l'université Amadou Bello dans la ville de Zaria. Il est aussi vice-président de l'ONG Network for Justice.
Le nœud du problème réside dans les fonds publics. Du président Obasanjo à Jonathan, plus de 300 milliards de dollars ont été dépensés dans le secteur de l'énergie, mais il n'y a pas d'électricité. Avec cette somme, si vous avez des gouvernements sérieux, on pourrait monter des projets énergétiques pour toute la région, l'Afrique de l'Ouest et centrale.
En juin, le Nigeria a annoncé avoir choisi deux sites pour de futures centrales nucléaires qui seront construites par la compagnie étatique russe Rosatom. Deux autres sont aussi à l'étude. Une autre difficulté, c'est l'essence. Le pétrole constitue la principale source de richesse du Nigeria. Le pays est le premier producteur en Afrique, le 8e exportateur mondial d'or noir. Mais ironie du sort, il doit importer l'essentiel de ses carburants à cause de ses faibles capacités de raffinage. Sur le marché noir, les prix explosent. Seuls les plus riches peuvent se payer facilement du carburant. Les deux tiers de la population vivent dans l'extrême pauvreté, d'après l'ONU. La dépendance du pays envers le pétrole risque aussi de mettre à mal les finances publiques. Le Nigeria tire du brut plus de 90% de ses revenus à l'export. Or, le cours du brut a dégringolé de près de 60% depuis juin 2014. Et le résultat se fait sentir. Les revenus tirés des ventes du pétrole ont diminué de plus des deux tiers entre septembre 2014 et juillet 2015 au Nigeria, selon un rapport de la compagnie pétrolière nationale publié la semaine dernière. Le président Buhari, qui a pris le portefeuille du pétrole dans son nouveau gouvernement pour tenter d'y limiter la corruption, a déjà annoncé vouloir réduire la dépendance à l'or noir. Il mise sur le développement de l'industrie, les mines et l'agriculture. Mais pour attirer les investisseurs étrangers, encore faut-il avoir de l'électricité pour faire tourner les usines. Merci à Gwendoline Hills pour les interviews. Si vous voulez réentendre ce magazine Économie et Développement, rendez-vous sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.